There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux. Parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Bienvenue à toutes et tous dans la partie 2 de l'épisode de l'Impératrice. Je m'entretenais précédemment avec Flore dans la partie 1 et suis désormais en compagnie de Charles, autre membre du groupe, qui défendra à son tour la daube de son choix. Comme je l'ai déjà dit dans la première partie de l'épisode, le prochain album de l'impératrice, Takotsubo, paraîtra le 26 mars. Afin de faire patienter son public, le groupe a dévoilé quelques singles, dont Voodoo, sorti en 2020. Ainsi que le single Fou, qui est paru la même année. Salut Charles.
Salut.
Comment ça va?
Bah, très bien. Prêt à parler de daube, là, je suis hyper chaud.
Il vient d'entendre Flore parler de la sienne, alors du coup, t'as eu un temps de préparation.
Mieux.
Non, je suis pas compétitif, contrairement à Flore.
Yes, il y a une super ambiance ici, en tout cas, ouais. C'est super.
Non, on s'adore.
Charles, c'est quoi ta daube?
Ma daube, c'est Tu m'oublieras, de La Rousseau. Magnifique morceau, symptomatique des années 90.
Effectivement, je crois que c'est 98-99.
98, ouais.
Ouais,
ouais. Non, 98, il est sorti en 98 et il est sorti avant l'album, en fait.
Ouais.
C'est des deux titres classiques, format de l'époque.
Voilà. Il annonçait la couleur.
J'avais couru l'acheter à la Fnac.
Ah ouais?
Évidemment.
T'étais déjà un gros fan, en fait.
J'avais un peu ce truc de collection des CD de deux titres. Tu vois, parce
okay.
que tu ramenais au boom après, et plus tard, tu les classais dans un petit, une espèce de petite pochette avec ton Discman, tu vois.
Putain. Ouais. Du coup, t'es en train de me dire que t'as dansé sur du La Rousseau et des booms?
Ah, mais bien sûr, bien sûr.
Putain, moi, j'ai raté ma vie.
Un émoi, c'était un émoi adolescent, quoi. Pas possible, tu vois.
Franchement, Tu m'oublieras, bon morceau en plus pour Pécho, à 12 ans, sur la piste de danse.
Ouais, parce qu'à 12 ans, tu comprends pas que c'est pessimiste, quoi.
Bien sûr.
Ouais.
Et puis, il y a le clip, qui, je sais pas, tu l'avais vu, j'imagine.
Ouais, je l'avais vu, il était en boucle, je pense, sur la MTV.
Oui,
quoi,
voilà. Un peu surexposé, un peu à la Pink avec Let's Get This Party, Started.
Putain.
Tu vois, ce genre.
Très bien aussi, ça.
Ben, bien sûr. C'est pas une taupe. Alors, qu'est-ce qui te touche autant dans ce morceau?
Ce qui me touche, je pense que c'est vraiment cette espèce de mélancolie qu'il y a dans la mélodie et tout. Bon, c'est forcément, je suis nostalgique de cette époque-là, quoi. C'était ma très jeune adolescence. Mais je trouve qu'il y a quelque chose vraiment d'imparable, dans la mélodie. Et évidemment, l'arrangement qui est très accrocheur et tout est facile, quoi. C'est hyper easy going, easy listening, forcément. C'est propre, c'est bien fait. Bon, quand tu reviens un peu dessus aujourd'hui, c'est dégueulasse, c'est la prod, super mal vieillie. Mais j'ai du mal à faire abstraction, voilà, du mauvais goût en fait dans ce morceau. C'est ça qui me fait kiffer. C'est, vous en parliez tout à l'heure, quoi. C'est quel est le rôle de la musique à un moment, tu vois. Ouais. Est-ce que tu te focuses sur les émotions ou est-ce que tu places ton curseur un peu plus haut en tant que musicien, tu vas détailler un peu la prod, les paroles, etc. Et là, je suis vraiment 50-50, tu vois. Mais je préfère me dire que j'aime bien ce morceau pour ce qu'il est, ce qu'il dégage et ce qu'il me renvoie comme émotion, quoi.
Ouais, ouais. Ok, un truc beaucoup plus brut que ça, quoi.
Exactement.
Et c'est un truc que t'écoutes encore, du coup ?
Ah ouais, carrément. Ouais, pour moi, c'est un morceau de soirée, quoi.
Et c'est ça a été constant ou est-ce que t'as fait un petit rejet de cette chanson à une époque où
j'ai clairement fait un rejet de cette chanson, comme franchement de toute la musique des années 90 que j'écoutais. Moi, je suis né en 86, donc j'avais vraiment 12 ans à cette époque-là, 12-13 ans, tu vois. Donc c'est vraiment à l'époque où t'es ultra sensible, t'es une éponge, quoi.
Ouais.
Et donc tu vis ces morceaux comme personne d'autre, tu vois. T'es dans un clip, tu te fais tout un film et tout. Et forcément, en découvrant un peu plus de musique plus tard, ouais, je me suis dit que c'était de la merde, mais on parlait d'Aqua et tout, pareil. Gala, tous ces trucs-là, tous ces CD de titres en fait. Mais j'y suis revenu, parce que je sais pas, à un moment. Ouais, tu fais acte de bonne foi, quand même.
Ouais, voilà, c'est ça. ça suffit de se la péter, quoi. Au bout d'un moment, t'aimes la Rousseau, quoi.
Exactement.
moi, évidemment que je le connaissais, ce morceau, mais ça faisait des années que je l'avais pas entendu. Donc, en vrai, merci, parce que je me suis retrouvée à kiffer ce morceau. Mais j'ai réalisé un truc, c'est que toi, ça te rappelle pas un morceau, ce morceau?
Alors moi je connais son histoire à ce morceau, mais si c'est supposé me rappeler un truc de la même époque, non. Je sais que c'est une reprise en fait.
Ah c'est une reprise.
Ouais c'est une reprise.
Ah je savais pas.
C'est une reprise d'un morceau de Régine qu'elle a chanté en 1980 qui est incroyable et qui a été écrit par Yves Dessec qui est le mec qui a écrit Gentleman Cambrioleur de Dutronc, qui a écrit pour Claude François, pour Delpech, pour Hugo Frey, pour même quelques morceaux de France Gall et tout.
Okay.
Enfin c'est un gars qui était assez prolifique à l'époque, mais voilà, donc il a écrit ce morceau et il l'a fait chanter entre guillemets par Régine. Il faut absolument écouter ça. Non, c'est marrant parce que le morceau est incroyable. Bon bah Régine, tu vois, on sait, voilà, c'était un peu une hit girl et elle pouvait faire un peu ce qu'elle voulait. Bon, elle avait pas particulièrement de voix. Wannabe à Mandalia, un peu, tu vois, genre dans le délire. Et voilà, c'était déjà un morceau de disco, assez mélancolique et tout. Mais bon, voilà, la cover de La Rousseau, c'est vraiment quelque chose.
Mais c'est fou. Et attends, ça s'appelait Tu m'oublieras aussi.
Et ça s'appelait Tu m'oublieras, ouais, c'est le titre, quoi, du morceau.
Mais comment j'ai fait pour pas savoir ça?
C'est un morceau qui est pas dispo sur Spotify, il faut vraiment aller le diguer, quoi, sur YouTube,
etc. Ouais. Je vais totalement faire ça en rentrant.
Sinon, il me rappelle rien.
Mais en fait, pour moi, donc, je pensais que c'était pompé sur La Rousseau, mais en fait, c'est sur Régine. En le réécoutant, ça m'a rappelé ce morceau que je suis en train d'avouer moi-même un truc honteux, du coup. Un truc que j'écoutais quand j'étais adolescent. Bon, quand j'avais 12 ans, ok. C'est Petite Sœur de l'âme. Est-ce que tu vois ce morceau?
Je vois pas. Je vois très bien l'âme, mais alors Petite Sœur, non.
Alors, ça c'est pareil, faudra que tu réécoutes, ou que t'écoutes, le couplet de Petite Sœur de l'âme, c'est totalement en fait le couplet de Tu m'oublieras, quoi. C'est la même ligne, etc.
Ok, génial.
Et ouais, et je me suis dit, c'est vachement intéressant parce que c'est des meufs qui sont de la même époque, déjà.
C'est un peu plus tardif, l'âme, non?
L'âme, c'est 2000, quoi. Ouais. J'ai écouté ça en 2005, un truc comme ça, okay, tu vois.
Ouais.
Donc, tu vois, je me dis, c'est une période Ophélie Winter, l'âme, etc.
Hit machine, quoi.
Bien sûr. Mais et je me suis dit, justement, c'est marrant parce que La Rousseau, en fait, c'était assez précurseur de ces années 2000 qui nous ont façonnés, finalement, quoi.
Oui, complètement.
Mais c'est ouf.
Je vais écouter l'âme.
Ouais.
Mais oui, c'était les mêmes prods, quoi, avec cette espèce de caisse claire omniprésente et tout. Enfin, tu vois, les Spice Girls, c'était pareil, c'était le même genre de production.
Oui, c'est vrai.
Ça nous a marqué, quoi.
Putain. Et aussi un petit peu le même genre de clip, finalement, un peu les mêmes couleurs,
oui, complètement,
etc.
Ouais.
Je trouve, ouais. Ça m'a fait marrer parce qu'à un moment donné, ils sont sur un toit tous en train de danser. Et d'ailleurs, tu vois qu'il n'y a pas énormément de budget. Et on est censé croire qu'on est à New York, mais histoire de nous le rappeler, à un moment donné, il y a un gros plan sur l'Empire State Building, mais genre, d'un seul coup, il surgit et tu vois que c'est une photo.
Trop bien. Un poster.
Je trouve ça trop bien. Mais ça me fait marrer aussi parce que je me suis dit, c'est fou comme c'est pas du tout incohérent avec l'impératrice, en fait.
Non, il y a le côté un peu disco, forcément, derrière, et cheesy, tu vois. C'est vrai que Flore en parlait, nous, on kiffe, malgré ce qu'elle dit, le côté rose bonbon et la musique rose bonbon. Moi, j'étais bercé à, tu vois, à Discovery de Daft Punk, qui était vraiment l'album rose bonbon par excellence, hyper dense, quoi. RIP, ouais, ou pas, on sait pas, on verra, tu vois. Pour moi, c'est marketing, tout ça. Bref, passons. Mais j'ai failli pleurer, ceci dit. Mais...
voilà, c'est dit.
J'étais pas bien. Mais je sais plus ce que je disais. Oui, non, musique rose bonbon, et forcément, bah ouais, ça... Il y a un petit lien, quoi. Ces petites cocottes de guitare, ce côté, oui, hyper disco, en fait. Mais moi, je pense que c'est ça qui me fait kiffer, toujours. Je pense que c'est un morceau hyper... C'est un morceau qui est fédérateur, quoi, qu'il arrive. C'est un tube, clairement. Ça a été conçu comme ça. Je disais que c'était symptomatique des années 90, parce que là, en plus, elle mélange le français, l'anglais.
C'est vrai.
Elle mélange plein de trucs. Elle fait une espèce de scat. Elle fait une espèce de vibe et tout. Genre, enfin, c'est vraiment super pensé, quoi. Mm-hmm. C'est complètement... C'est quadrillé comme
c'est
morceau.
C'est très évident, ouais.
Ouais, c'est hyper évident. Ça plaît à tout le monde. Mm-hmm. Et ouais, tu peux l'écouter n'importe où, quoi. Bon, particulièrement en soirée, parce qu'il y a un côté un peu hymne,
oui.
Tu vois, genre si t'es 30 dans une pièce et que les 30 personnes connaissent le morceau, tout le monde va chanter, évidemment. Tu vois.
C'est un beau moment.
Bah ouais, c'est un super moment. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on aime ce morceau, en vrai.
Carrément.
C'est pour ça qu'on aime les daubes.
Bah oui, mais alors voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est vrai que d'un côté, c'est la daube par excellence, c'est le truc, on sait tous objectivement que bon, c'est bien foutu, tu vois, mais c'est pas le truc le plus recherché, c'est pas les meilleures paroles du monde, etc. Et pourtant, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a ce côté un peu magique où si tu le fous en soirée chez Charles, notamment parce que il sait choisir son entourage, du coup. Mais ouais, ça va être un truc assez hymnique que tout le monde va chanter vers levé, quoi. Mais c'est marrant, c'est un morceau triste aussi, un peu dans les paroles finalement.
Hyper pessimiste, quoi.
Bah ouais. Et donc même question, tu l'écoutes quand t'es triste ou quand t'es heureux?
Non, pas du tout.
Non.
Pour le coup, non. Je pense qu'il y a ce truc que j'aime bien moi dans la pop en général, qui fait se confronter la joie et la mélancolie, tu vois, parce qu'il y a quand même un côté assez joyeux dans ce morceau, le beat et tout. Enfin, il y a clairement un truc dansant, une volonté de faire danser les gens, tu vois, hocher la tête en tout cas. Et la mélancolie, parce que oui, le texte est pas forcément heureux. Bon, je pense qu'elle, oui, c'est vraiment. T'as tous les ingrédients du love song classique, quoi,
ouais.
Genre dedans. Bon bah tu m'oublieras, quoi, tout simplement. Ou elle se remémore. Enfin, c'est une espèce de prévenance, quoi, où elle prévient que voilà, le moment va arriver où je sais pas, l'amour dure 3 ans, quoi. Ce genre de cliché, tu vois, genre c'est un peu ça.
Oui.
Et mais il y a quand même quelque chose de, je sais pas. Si t'es content, tu vas forcément kiffer, être heureux, tu vas pouvoir danser dessus et lever ton verre. Si t'es malheureux, je suis pas sûr que ça te rende plus malheureux que ça non plus.
Non, c'est vrai.
Mais il y a quand même cette mélancolie qui est présente, quoi.
Mais c'est marrant parce que c'est le bon mot, je pense, mélancolie, parce qu'en même temps, c'est pas la chanson triste, parce que c'est pas dit explicitement dans les paroles, mais j'ai l'impression que c'est un peu une chanson de rémission post-rupture, genre c'était très triste à un moment donné, mais en même temps tu vois elle chante tu m'oublieras, elle est pas en train de dire moi ça va mieux, mais puisqu'elle le fait sur des beats etc, c'est un peu l'acceptation, tu vois, du truc, quoi, du feeling, genre bon bah c'est triste mais on va finir par se relever, tu vois, même si je sens que tu vas m'oublier et que je serai plus dans ta vie, plus dans ta tête, etc. Il y a de la mélancolie, mais je le trouve pas foncièrement triste, en fait, ce morceau.
Non, il est pas triste. C'est vraiment, je sais pas, c'est une espèce de d'ordonnance, en fait. Il y a un peu un côté ordonnance comme ça. C'est marrant, il y a même un passage hyper cul, genre vraiment mièvre et au milieu, je sais plus, je peux te redire, parce que j'ai les paroles sous les yeux.
Je les connais pas par cœur.
Mais moi non plus. Malheureusement,
faux
pas
fan.
Encore. Et, faux fan. Attends. Ah ouais, voilà. Ah voilà, tu oublieras le soleil que mes mains faisaient naître dans les tiennes, le bonheur délirant qui faisait brûler tes veines et ce cri vers le ciel qui finit comme un je t'aime.
Oh là là,
c'est quand même assez génial,
ah,
tu
putain.
Vois.
Ah ouais, je dis que j'avais pas capté.
On est pas mal, quoi, à ce moment-là du morceau, tu as un truc évidemment à 12 piges, tu comprends absolument pas, tu chantes ça innocemment et tout, tu vois, en regardant la meuf qui est en face de toi, je dis yes. Mais voilà, avec un peu de recul, maintenant tu dis OK. Ok. Tu vois, on se lâche un
peu. Ah ouais,
quoi.
Mais tu vois, même moi à 25 ans, finalement, je vais pas du tout capter. Genre.
Bah, il faut quand même faire un. On chante le refrain essentiellement sur ce morceau.
Oui,
et le tu m'oublieras en boucle et tout.
Sachant
que c'est parsemé de petites interventions un peu. Yeah. Comme ça.
Toujours.
Trucs,
toujours.
Tout, genre un peu de vibe. Ouais, ce qui rend le truc très léger, en fait.
Oui, oui. Mais ça habille bien la chanson en même temps.
Mais oui, bah, c'est vraiment, ouais, c'est l'apanache du tube. 90s, quoi.
Mais c'est marrant aussi parce que, tu vois, donc Flore a choisi un morceau qui n'était pas, qui ressortait pas du souvenir de l'enfance, etc. Toi, comme d'autres artistes, t'as choisi quelque chose qui te rendait un petit peu nostalgique d'une certaine époque, etc. Même si tu re-aimes à nouveau, quoi. Et c'est fou parce que il y a toujours cette période, effectivement, où les gens rejettent cette chanson, genre quand on a, je sais pas, entre 16 et 20 ans, j'en sais rien, où on est en train de s'affirmer avec un goût musical très prononcé. Et donc toi, tu as rejeté Tu m'oublieras. Tu as oublié la Rousseau.
J'ai complètement oublié la Rousseau, ouais. Mais comme beaucoup de trucs de cette époque, c'est marrant.
Comme quoi?
Ah bah, Gala, qu'est-ce que j'écoutais? Genre Craig David, tous ces trucs un peu R&B, quoi, genre, tu vois, qui passaient sur Skyrock en boucle, ou tous ces clips MTV, quoi, parce qu'à un moment, t'as décidé d'arrêter de mettre des fûts de blanc un peu larges et... tu vois,
et d'alimenter ton Skyblog.
Ouais, bah exactement. Tu vois, faut passer à autre chose, tu vois. Puis il y a toujours ce moment douloureux où tu revois des photos de toi adolescent. C'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est vers 20 ans, 22 ans, tu vois, et tu te dis, putain, j'étais vraiment trop con, quoi.
Ouais. J'étais trop moche.
Et donc tout ce qui va avec, tu l'oublies, tu le jettes à la poubelle. Tu vois, ouais, t'avais des bagues, t'avais genre, moi j'avais, je me rappelle cette époque où j'avais quand même un espèce de collier de surfeur, tu vois, genre l'enfer. Et je m'interdis d'avoir été comme ça. En même temps, genre, j'ai pas le choix, tu vois.
Donc... Attends, ton collier de surfeur, c'était quoi? C'était genre des dents?
Non, j'avais pas une dent de requin. Non, j'avais plus un truc avec des boules de bois, genre.
Bien sûr.
Voilà.
Tom Frager.
Mais, voilà, exactement. Putain, l'enfer. Mais j'avais pas la dent de requin. Je trouvais ça déjà naze.
Ah ouais, t'étais au-dessus de ça. Quoi,
voilà. Exactement.
Ok. Et alors, donc, c'est un morceau, tu t'y es remis. Est-ce que tu te rappelles le moment où tu t'es remis à la Rousseau ou pas?
Pas particulièrement. J'imagine que c'était pendant une soirée, quelqu'un l'a mis, c'est pas moi qui l'ai mis. Et j'ai le souvenir d'avoir passé une très très bonne soirée, hyper arrosée, hyper festive et tout. Et je me suis dit, putain, mais ce morceau fait partie de ma vie, quoi.
Ouais.
Évidemment. Ouais. Genre, la réconciliation instantanée.
Ah oui, je comprends. C'est ça. On se retrouve avec le morceau, quoi. Et en plus, trop beau contexte pour le retrouver, je pense. Soirée, etc. Effectivement.
Ouais.
Donc, en faisant mes petites recherches, j'avais tapé du coup La Rousseau, La Âme dans Google, parce que ça m'énervait parce que personne ne parlait de la ressemblance de ces deux titres, alors que je trouve que vraiment La Âme s'est beaucoup inspirée de La Rousseau. Je n'ai pas vu le documentaire, mais j'ai vu que toutes les deux avait beaucoup râlé sur un documentaire qui était passé genre sur TF1, je crois, un truc comme ça,
okay.
Sur les stars des années fin 90 début 2000, et que toutes les deux s'offusquaient parce que elles avaient pas du tout été prises au sérieux effectivement dans ce documentaire. Non mais attends. Et qu'elles disaient qu'elles aimaient pas avoir été dépeintes comme effectivement des tu vois, des petites artistes de passage qui font juste du bien comme ça, etc. Et que voilà, elles étaient pas considérées comme des artistes à part entière. Et est-ce que toi, tu défends ça, ou alors est-ce que tu admets quand même ce point de vue un petit peu, sans vouloir bitcher sur qui que ce soit, bien sûr, mais que c'est quelque chose qui fait du bien, mais tu vas pas écouter tout un album de La Rousseau non plus, tu vois, sans interruption, en mode religieusement, quoi.
Non, je suis assez d'accord. Je pense que je pourrais zapper l'album, tu vois, genre passer d'un morceau à un autre rapidement par curiosité. Je l'ai jamais fait. Parce que pour moi, c'est genre one hit girls, tu vois, genre, comme il y avait à l'époque. C'est comme les Spice Girls. En vrai, il y avait trois morceaux qui étaient bien, tu vois.
Oui.
Mais c'est pas de leur faute. Et je comprends qu'en fait, pour elles, ça a dû être frustrant en tant qu'artiste et tout, chanteuse. Enfin, c'est des nanas qui ont eu des voix, qui ont eu un statut à un moment et qui ont dû beaucoup travailler. Et voilà. Et quand elles disent qu'elles ont pas été reconnu tel quel, bah c'est parce que en fait juste la machine de la musique est comme ça, et je pense que les gens qui les ont entourés et avec qui elles ont travaillé, de toute façon, comptaient absolument pas faire d'elles des artistes intègres, mais les ont utilisés parce que elles avaient tel style, telle voix, et qu'à l'époque il s'était calculé qu'elles fassent un ou deux morceaux maximum, quoi qu'il arrive, tu vois. Et ça existe encore aujourd'hui, moins,
c'est vrai,
mais à l'époque, en tout cas, c'était comme ça.
C'est vrai.
C'était vraiment, ça fonctionnait comme ça, la musique. Puis bon, j'imagine qu'elles étaient signées sur des majors, des gros labels, qui eux fonctionnaient comme ça, quoi qu'il arrive. Donc ils ont, ouais. Mais je comprends leur frustration. Après, je sais pas, j'arriverai pas à les défendre d'un point de vue artistique
plus. Oui.
Je pense que ça serait hyper hypocrite de ma part.
On est quand même dans l'hymne à l'ado. Mais ouais, t'as raison. C'est vrai qu'elles sont très ancrées dans cette époque. Et bon, bah voilà, elles représentent beaucoup. Bah comme tu disais, voilà, cette époque-là, effectivement, un petit peu genre pop, R&B, fin 90, début 2000 en France, etc. Mais c'est aussi vrai qu'il y a de moins en moins d'artistes de passage comme ça, tu vois, qui
qui juste font un gros hit et dont on n'entend plus jamais parler. En général, c'est des gens qui sont assez constants. Soit ça marche très bien, soit ça marche moyennement. Mais c'est vrai que ça se fait beaucoup moins.
C'est bizarre. C'est assez étonnant comme mais tant mieux, mais je dirais que aujourd'hui la musique est beaucoup plus à la fois ciblée, plus genrée, je sais pas si c'est le bon mot, mais plus définie dans son style. Non, genrée c'était pas le bon mot, mais genre c'est-à-dire que ça marche par scène en fait. Tu vas aux États-Unis par exemple, t'as vraiment la scène californienne avec je sais pas Anderson .Paak en fer de lance, tu vois. T'as la scène vraiment francophone aujourd'hui, et disons que les groupes qui fonctionnent vont être vraiment développés. C'est comme ça que la musique marche aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de développer les groupes sur la durée. Et les labels, enfin la musique marche moins bien aujourd'hui, on fait moins d'argent avec l'arrivée du streaming et tout, du coup on va plus miser sur un groupe à long terme, sur un projet à long terme, et voilà. Et puis c'est bizarrement devenu plus difficile de faire de la musique maintenant, parce que l'économie est différente, même si elle est accessible à tout le monde. Tu vas en parler de faire de la musique sur GarageBand, tu peux faire de la musique sur ton téléphone, mais j'ai l'impression que la sélection est plus drastique maintenant. Ça dépend quel genre, tu vois. Après, il y a le rap aussi, évidemment, mais tout fonctionne par scène, un peu, j'ai l'impression, tu vois. Et du coup, les gens s'identifient plus facilement à une scène qu'à un chanteur.
Oui, c'est vrai.
En particulier, et ce qui fait que c'est moins éphémère, j'ai l'impression.
Ouais, c'est vrai. Bon, peut-être que tant mieux d'un côté, tu me diras. Mais ouais. Et puis pendant que tu disais ça, c'est vrai que je me suis fait la réflexion. Est-ce que actuellement, je connais vraiment un artiste ou une artiste française qui fait du R&B comme elle le faisait, l'âme, etc.
Avec les mêmes codes, tu veux dire?
Ouais.
Non, pas trop. Après, il y a, je sais pas, Angèle, elle descend un peu de ça. Finalement, c'est la nouvelle.
Oui.
C'est un peu ce nouveau genre de son. Tu vois, ça reste hyper accessible. C'est super bien fait. C'est comment dire? Mais elle a un côté un peu plus idole aussi, quoi. Angèle, je sais pas. Mais il y a un peu un mélange de R&B,
pop très sucré,
tu vois, genre assez immédiat. Mais c'est la même chose, je dirais, chez Juliette Armanet, ou même si c'est plus de la musique à texte.
Oui.
Ouais.
C'est des descendantes, quoi.
Après, tout est cyclique, je dirais, quoi.
Oui,
le R&B, il y en a beaucoup, tu vois, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de la musique urbaine.
Oui.
Ce qu'ils appellent la musique urbaine.
Comme ils disent.
Ouais, comme ils disent, exactement. Et mais qui est très codifié aussi, hein. C'est vrai que tu vois, quand tu t'écoutes des morceaux de Iliona par exemple, qui a une très très belle voix et tout, ça l'empêche pas d'utiliser l'autotune sur certains morceaux. C'est moi, ça m'a vachement étonné en fait.
Oui. Et avec son EP là qui est sorti.
Ouais, exactement.
Oui, bien sûr. Et alors, vous êtes deux et vous avez chacun choisi une chanson, et je vous demande pas de le faire, mais si un jour l'impératrice devait reprendre un des deux morceaux, ce serait quoi, celui qui s'y collerait le mieux? Genre, c'est quoi qui s'y prêterait bien? À l'impératrice, hein, à votre sauce, mais ce serait quoi?
Là, tu m'oublieras, elle est quand même déjà bien disco, quoi.
Bah, tout dépend, ouais, voilà. Ouais. Tout dépend comment t'envisages une reprise. Est-ce qu'il faut transgresser le truc et partir complètement autre part, ou est-ce qu'il faut rester fidèle, tu vois?
Faut en faire l'impératrice, quoi.
Ouais. Mais comme c'est déjà disco, du coup, ça sera un peu déjà vu. Alors que Cœur Grenadine.
Je suis trop
chaud. J'adore les daubes.
mais si tu veux, défoule-toi, dis quels sont d'autres dos que tu aimes. Mais tu as cité Gala déjà.
Ouais, Gala, mais c'est une tuerie ce morceau.
Il y avait quoi en boom quand t'étais adolescent?
Putain, bah moi j'ai vraiment vécu à l'époque des boys bands, etc. Tu vois, genre quand j'étais. Il y a le Blue Man, ouais, je sais plus comment il s'appelait, ouais, Blue, là, ouais. Ça c'était hardcore, putain, vraiment, là, on est à l'extrême. Non, moi, j'ai vraiment,
NSYNC.
Ouais, voilà, les NSYNC, même les 2B3, les 3T, les mecs qui avaient repris Baby Come Back, là, comment il s'appelait, putain.
En tout cas, NSYNC, ouais, moi, j'écoute encore.
Mais les Spice Girls, enfin, qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
Non, c'est pas un bon sens.
Si, attends, Baby Come Back, quand même. Ah, les Worlds Apart, évidemment.
Quoi. Ok.
C'était vraiment l'explosion des boys bands, genre début des années 90, quoi.
Okay.
Et, ça, c'est vraiment terrible, quoi.
Mais j'avoue, attends, parce que, justement, le morceau de La Rousseau, là, Tu m'oublieras, c'est un truc qui pourrait très bien aller à, merde, comment elle s'appelait, ces meufs qui avaient fait ce morceau, là, No Scrubs?
Ah oui.
Les TLC.
Ah TLC, ouais, trop bien. Ah, oui. TLC, c'est Neil Peart quand même.
Elles auraient trop pu chanter Tu m'oublieras, tu vois.
Ouais, c'est vrai. Bah c'est le même genre d'instru, mais ouais. De toute façon, c'était une époque où dans la musique dans la production française, on essayait de copier vraiment à 100% ce qui se faisait aux US quoi.
Oui, oui.
Ce son là, il vient des US de toute façon.
Oui, oui, c'est vrai. C'est
vrai. Vraiment le son, c'est le son TLC, c'est le son Beyoncé premières arts avec son groupe, ouais, Justin Timberlake, etc. quoi.
Ouais, ouais.
Je pense que c'était vraiment ça. Et nous, on copiait. C'est marrant. C'est un truc qui est venu en France grâce à Michel Berger, d'ailleurs. Ce truc de vouloir ramener le son américain en France. Ouais, ouais. Berger, c'était son obsession, quoi. C'était vraiment, faut que ça groove comme aux US.
Oui, oui, bah, ça m'étonne pas.
Faut que ça joue
pas,
comme chic, quoi. Tu
ça
vois,
m'étonne pas, ouais.
Et, mais ouais.
On a toujours bien aimé faire ça, c'est vrai. Mais dans les années 60, on aimait bien copier les Anglais, finalement. On reprenait les chansons anglaises et on faisait des reprises françaises.
Il y a qu'aujourd'hui où il y a un peu ce retour d'exception culturelle dans la musique, c'est marrant quoi. Il y a eu les Daft Punk évidemment, je pense que ça a énormément aidé. Ça, quoi qu'on en dise, ça a aidé parce que à cette époque-là, la France avait une image terrible à l'international, genre musicalement parlant.
C'est vrai.
On faisait que de la merde, tu vois. Et c'est grâce aux Daft Punk que en fait le monde a connu Gainsbourg, que le monde a connu genre tout ce qui s'est fait en France, que les rappeurs se sont tournés vers des petites pépites. Comme Cortex, des groupes comme ça, tu vois, qui se sont mis à sampler. Mais avant ça, c'était terrible, quoi.
Ouais.
Et aujourd'hui, en fait, on a un peu ce truc plus centré, j'ai l'impression, tu vois, avec ces quotas du CSA qui sont beaucoup plus exigeants, où il y a vraiment de la musique franco-française et francophone à la radio, principalement. Et je dirais que c'est ça aussi qui aide à la pérennité des projets musicaux français, tu vois.
Ouais, ouais.
Ce qui est pas plus mal.
Ouais, non, c'est vrai. C'est intéressant. C'est de l'histoire de la musique, un peu, mais c'est
fini de copier, quoi, maintenant.
Ouais, c'est fini.
On est là, tu vois. Non, mais même nous, on le vit un petit peu parce qu'on fait partie des rares projets qui ont un public à l'étranger.
Ouais, ouais, ouais.
Et on a la chance de pouvoir tourner un peu au Mexique, aux US et tout. On a vraiment un public là-bas. Et il y en a très peu, en fait.
C'est
écoute comme ça. Donc finalement, ouais, c'est un peu l'inverse qui se passe et ça fait du bien.
C'est trop bien. C'est trop bien. Cool. Bah merci Larousseau du coup.
Merci Larousseau.
Enfin, merci Régine. Et bah merci à toi aussi Charles.
Merci beaucoup.
Bye. Ciao.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.